Voilà, alors avant de commencer, que je vous dise quand même, parce que je ne vous l'ai pas dit, que je suis bien content d'être en Suisse. Content de revoir un certain nombre d'entre vous. Alors, il y en a que je connais depuis longtemps, d'autres depuis moins longtemps, mais j'ai gardé un très bon souvenir aussi de la dernière rencontre, il n'y a pas très longtemps, à laquelle a fait allusion Serge. Puis voilà, je suis toujours content de revenir en Suisse. Quand on s'appelle Schweitzer, il y a un côté retour aux sources. Alors, le premier sujet que nous devions aborder aujourd'hui, il est un peu, je me suis rendu compte après en relisant le texte, le titre qu'on a mis, il est un peu ambitieux. Hein. Fondement théologique de la spiritualité. Rien que ça. Donc, voilà, vous allez être déçus, ça ne va pas être fondement théologique de la spiritualité, ça sera en une heure, ça serait un peu un tour de force. Alors là, je vous renvoie justement peut-être au livre. Peut-être commencer par une définition de la spiritualité. C'est d'autant plus important que pour certains protestants, il me semble, le mot spiritualité fait un peu bizarre. On ne sait pas si c'est New Age ou catholique. Voilà, alors je vous ai donné une définition, ne serait-ce que pour vous rassurer. Au fond, et voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein, je veux dire, dans le livre, vous en trouverez d'autres. Hein, mais c'est au fond, il me semble, tout ce qui concerne l'expérience de la vie avec Dieu, donc dans la relation avec lui, Père, Fils et Saint-Esprit, mais donc parce que c'est la vie avec Dieu, dans la relation avec les autres, et je dirais avec la création tout entière. On verra selon les auteurs hein, que les accents sont mis plus ou moins. Et alors, comme il fallait choisir un sujet pour ce soir et pas donc la théologie de la spiritualité en général, je me suis dit que puisque justement il s'agissait de tout ce qui concerne la relation avec Dieu, ça vaudrait la peine au fond de parler de ce Dieu de la relation, de ce Dieu avec lequel on entre en relation. D'autant plus que je crois que l'essentiel de la vie spirituelle, mais en même temps, on pourrait dire, l'essentiel de ces dérives possibles, repose en tout cas pour une très grande partie sur l'idée que nous nous faisons de Dieu. Et il a existé, et il existe aujourd'hui dans le christianisme, mais pas seulement dans le christianisme, hein, simplement dans le protestantisme. Et à l'intérieur de chacune, à l'intérieur de l'Église réformée, à l'intérieur des milieux évangéliques, etc., une très grande variété, on pourrait dire des discours extrêmement divers sur Dieu, pas forcément conscients toujours. Alors bien sûr, cette diversité, elle trouve sa source, en partie en tout cas, dans des approches théologiques qui sont elles-mêmes variées, qui sont elles-mêmes différentes, et qui vont chacune susciter un certain type de spiritualité. Mais je crois qu'il y a un autre problème qui est encore plus difficile à discerner, et sûrement plus difficile à résoudre aussi, c'est que je crois que la vérité de notre approche intérieure de Dieu n'a souvent qu'un rapport assez lointain avec les mots que nous employons. On peut avoir un discours tout à fait, classique, hein, parce qu'on sait ce qu'il faut dire, on connaît les formules, on répète des choses bibliques ou des choses théologiques, mais en fait, la manière dont dans la réalité nous vivons la relation avec Dieu, elle est liée à bien d'autres choses qu'avec la théorie que nous en faisons. Et cette distance-là, elle est tout à fait involontaire. Hein. Mais elle vient aussi de ce que les mots que nous employons, les mêmes mots, hein, évoquent des tas de choses variées selon les gens. Le même mot peut déclencher des harmonies très diverses en fonction de notre histoire, en fonction de notre psychologie, en fonction de tout un tas de facteurs. Et de tout un tas de facteurs que, dans un premier temps, au moins, nous ne maîtrisons pas. Et peut-être que plus nous en sommes conscients, je pense, plus ça aide aussi à maîtriser cela. C'est pourquoi il est peut-être utile de préciser un peu qui est le Dieu que Jésus nous révèle. Alors, je suis sûr que si on... Alors ça, c'est ni ironique ni un reproche, je précise. Mais je suis sûr que si on vous demandait, au fond, qu'est-ce que vous priez, la réponse, quel terme vous employez ? Je suis sûr que la réponse majoritaire à 90, je ne sais pas combien pour cent, ça serait le Seigneur. Hein, c'est tout à fait normal, moi aussi d'ailleurs, en fait. Hein, je vous dis ça, mais je fais la même chose. Et il me semble que fondamentalement, l'idée de Dieu, c'est l'idée du Seigneur, c'est le Créateur tout-puissant, maître de l'univers, etc. Et bien sûr, ce sont des choses qui sont justes, qui sont bibliques, qui ont des raisons d'être, qui sont théologiquement justes. Mais si nous les plaçons ces dimensions-là, hein, Seigneur, souverain, maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, etc., si nous les plaçons seuls au centre de notre perception de Dieu, de notre manière de penser Dieu, alors nous nous trouvons souvent devant le souverain, devant le roi, devant le Dieu juge, et même si nous disons qu'il est bienveillant et miséricordieux, bon, ça ne fait que le rendre encore plus grand, hein, mais avec une distance assez impressionnante. Et alors, le paradoxe, c'est que nous disons tous, me semble-t-il, que le sommet de la révélation chrétienne, c'est Jésus-Christ. C'est bien pour ça que nous sommes chrétiens. Et le paradoxe, c'est que lorsque Jésus parle de sa relation à lui avec Dieu, il parle toujours de son Père. Je pourrais vous donner des références, mais vous en avez des tonnes. Lorsqu'il parle de Dieu à ses disciples, il parle du Père, de son Père, de votre Père. Et quand il apprend à ses disciples à prier, il leur apprend à prier Père, notre Père. Hein, il les invite à s'adresser à Dieu à la manière qui est la sienne, comme lui. Et ce n'est pas seulement Jésus, ça se continue ensuite. Vous rappelez que l'apôtre Paul s'inscrit tout à fait dans cette tradition, hein, puisqu'il évoque cet esprit d'adoption que nous avons reçu par lequel nous crions Abba, Père. Et Abba, c'est fort probablement, sans aucun doute même, je crois, la manière dont Jésus s'exprimait, la manière dont Jésus appelait Dieu. Et cette notion de Père, finalement, elle est très spécifique, je dirais, à la foi chrétienne. Parce que Israël pouvait appeler Dieu Père. La notion de Dieu comme Père était connue d'Israël, mais en fait, elle concernait surtout la paternité de l'Éternel envers son peuple. Il y a une dimension collective, je dirais, là. Vous retrouvez ça dans Ésaïe 64, verset 7, Jérémie 31, verset 9, etc. La spécificité de l'enseignement de Jésus, c'est de nous présenter Dieu comme notre Père. Pas le Père de l'Église, hein, pas le Père du monde, pas le Père d'un tas de gens, mais notre Père, alors aussi le Père, bien sûr, des autres, mais notre Père en tant que personne. Et donc, de nous situer comme des fils et des filles de Dieu. Hein, en nous donnant ce privilège, on pourrait dire, dans la prière, d'utiliser cette formule, d'appeler Dieu notre Père. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu un pasteur qui était pasteur à Genève, qui s'appelait Guy Appéré. Et dans un petit livre sur la prière, il écrit ceci. Père, ce seul mot est tout un monde pour le chrétien. Il est le condensé d'une expérience intraduisible, faite d'admiration, de respect, de reconnaissance, de tendresse, d'humilité, pardon, d'abandon, de confiance et de bien d'autres mouvements et élans de l'âme qui n'ont pas de nom. C'est beau, hein ? C'est beau et on pourrait dire d'une certaine manière, tout est dit là. Le problème, c'est que c'est beau, mais je crois que c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que le mot père ne suggère pas ça nécessairement à tout le monde. C'est plus compliqué que ça. Et je vous parlais justement de ce décalage quelquefois entre les mots qu'on emploie et puis la réalité de ce qu'on pense vraiment, de ce qu'on ressent vraiment. Si votre père, c'est plutôt, si les sentiments que vous aviez à l'égard de votre père étaient intégralement faits d'admiration, de respect, de reconnaissance, de tendresse, d'humilité, d'abandon, de confiance et de bien d'autres mouvements, élans de l'âme, etc., ça baigne. Dans ce cas-là, c'est parfait. Il suffit que vous employiez le mot père pour que spontanément tout ça vienne. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens chez lesquels le mot père évoque tout autre chose. Et je ne parle même pas des gens qui ont eu à souffrir d'un père violent, tout ce qu'on peut imaginer. Mais au fond, combien déjà de gens parmi nous, enfin dans la société en tout cas, qui ont connu les pères autoritaires, sans aller jusqu'au drame. Les pères absents. Les pères qu'on craint plus qu'on aime. Il me semble que ça, c'est courant, c'est pas rare. Et c'est l'ambiguïté du mot père. Quand vous dites Seigneur, d'une certaine manière, de nos jours, c'est plus simple. Parce que Seigneur, ça veut rien dire, en gros, pour nous, en dehors de Jésus-Christ. Alors que dans le passé, quand on disait Seigneur, ça devait être lourd aussi. Parce que le Seigneur, c'était le Seigneur d'à côté. Il paraît qu'il y a un château, il y a un kilomètre d'ici. Ben voilà, il devait y avoir un Seigneur là aussi. Et donc le mot Seigneur, je suppose, dans le passé, devait évoquer aussi des choses très ambiguës, hein, qui pour nous ne sont plus ambiguës. Mais il me semble combien de chrétiens qui soit ont du mal à prononcer le mot Père, soit finalement, en prononçant le mot, projette sur Dieu ce qu'ils pensent de leur père. C'est-à-dire projette sur Dieu, au fond, les peurs, les rancunes, tout ce que vous pouvez imaginer, que leur expérience personnelle, familiale, a déposé en eux, comme des strates successives, difficiles à dégager. Alors je crois qu'il y a une chose qui est extrêmement importante quand on parle de Dieu. C'est que il faut comprendre que lorsque Jésus nous place ainsi dans la situation de fils devant le Père, hein, en nous parlant du Père, il nous apprend par sa vie même qui est le Père. Il ne renvoie pas d'abord, me semble-t-il, aux fantasmes de Père qui sont les nôtres, et qui peuvent être extrêmement variés, extrêmement douloureux, extrêmement heureux, et tout ce que vous trouvez entre les deux en fonction de notre expérience. Mais c'est en Jésus-Christ que nous pouvons apprendre qui est le Père. Vous vous rappelez cette parole dans Jean 14, 9 ? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Ça veut dire que nous n'avons pas à comprendre Dieu à partir de nos expériences humaines de la paternité, ou de l'absence de paternité, ou de la mauvaise paternité, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais il nous faut comprendre ce qu'est un père véritable à partir de la paternité de Dieu. Et ça, je dirais que c'est... Si parmi nous, il y a des pères, ce qui me paraît probable, je crois que c'est aussi le chemin pour apprendre à être père. Mais c'est surtout la manière pour chacun d'entre nous, sans exception, d'entrer dans une relation droite avec Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons savoir qui est le Père. Un Père, c'est quelqu'un, si on en croit le Christ, qui n'a que de l'amour pour son enfant. C'est quelqu'un qui, de manière inconditionnelle, veut son bien et sa croissance. Et on peut rajouter, pour cette raison même qui peut s'opposer à lui. Hein, vous savez bien que si vous êtes un père, mais on pourrait dire ça des parents, mais si vous êtes un père qui aime son enfant et que vous lui laissez faire par amour absolument tout ce qu'il veut, très vite finalement vous ne l'aimerez plus. Vous direz que c'est un amour fou qui aboutit à de la pathologie. Hein. Précisément parce qu'on aime, il faut aussi poser un certain nombre de limites. Et cet amour, et donc, encore un mot, et dont l'amour ne vacille pas, même si l'enfant commet des erreurs, et pire que ça, même si l'enfant s'éloigne de lui. Et j'imagine que vous pensez peut-être à une parabole, hein, la parabole du fils prodigue. Et dans la parabole du fils prodigue, on pourrait dire il y a, de manière énorme, une parabole du père. Or finalement, ce père, je dirais, la relation avec le fils, c'est la pire relation qu'on puisse imaginer. Dire à votre père, donne-moi la part d'héritage, et je m'en vais, ça lui dit très exactement, tu es mort pour moi, parce que je veux l'héritage. Quand on parle de tuer le père, symboliquement, on ne peut pas faire mieux que de demander l'héritage. Et puis finalement, le fils s'en va, on ne nous raconte pas ce que fait le père ou ce qu'il pense, mais ce qu'on voit, c'est le retour. Et quand le fils va revenir, le père va pas commencer par lui dire ta 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 ta, du calme. Est-ce que tu te mets à genoux? Est-ce que tu demandes vraiment pardon? Est-ce que tu as vraiment changé, etc. La seule chose qu'il fait, c'est finalement, il ouvre les bras et il l'accueille. Et si la parabole est intéressante pour nous, c'est que finalement, c'est très exactement le comportement de Dieu à notre égard, avec toujours l'ombre du fils aîné aussi. Nous pouvons très bien jouer aussi à la perfection quelquefois dans nos églises. Mais en tout cas, du côté du père, je dirais, c'est ce comportement du père qui aime de manière totale. Cet amour, donc, il est intelligent, il est attentif et il est patient. Et je crois qu'on peut, dans cette parabole, mais beaucoup plus largement, on peut parler aussi de la tendresse. Il me semble que dans la paternité de Dieu, que Jésus nous révèle, au fond, il y a quand même aussi toute une dimension que nous aurions tendance à appeler aujourd'hui maternelle. Voilà. Avec les fantasmes courants de maternité, de maternelle et de paternelle. Mais je veux dire, il y a toute une dimension de tendresse. Il n'y a pas juste la dimension du père, vous savez, qui est la loi. Mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus englobant, je crois. Alors, bien sûr, le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ comme un père, c'est bien le Dieu de l'Ancienne Alliance aussi. C'est bien le créateur de l'univers tout entier. Et quand on dit de l'univers tout entier, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, avec l'astrophysique, avec les moyens qui sont les nôtres, on a dans le temps et dans l'espace une idée de la dimension que ça représente, si j'ose dire. Enfin, pas une idée, mais une représentation encore plus grande que par le passé. C'est bien le maître de l'histoire. C'est celui qui, dans la loi, a exprimé sa volonté à son peuple. Mais on pourrait dire que la bonne nouvelle, d'une certaine manière, le cœur de l'évangile, et le paradoxe en même temps, c'est que c'est précisément ce Dieu-là, le Dieu créateur d'univers, tout puissant, maître de l'histoire, etc., qui est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ. Et on va bientôt fêter toute cette dimension de l'incarnation. Toute cette dimension de la venue du Père comme un petit enfant. On en reparlera avec François d'Assise, qui est l'inventeur de la crèche. Mais toute cette dimension-là, je dirais, Dieu se vide lui-même de sa puissance, de sa majesté, etc., pour venir jusqu'à nous. Et non seulement il vient jusqu'à nous dans l'incarnation, mais il se donne pour nous, en Jésus-Christ, sur la croix. Et ce Dieu-là, précisément, se révèle à nous comme un Père. C'est pourquoi tout ce que nous savons sur Dieu dans l'ensemble de la révélation doit être, je crois, compris, interprété à partir de et à la lumière de cette révélation finale de sa paternité en Jésus-Christ. Alors ça, je crois que c'est très important. Et peut-être très important parce que, autant, entendre ça, ça peut paraître relativement banal, Autant j'ai l'impression que chez beaucoup de protestants, mais je dis protestants parce qu'on est entre protestants, voilà, on pourrait dire ça d'autres chrétiens, hein, et peut-être particulièrement chez beaucoup d'évangéliques, hein, dans certains cas, tout se passe comme si Jésus-Christ n'était que celui qui est venu donner sa vie pour nous. Mais pas, et il est bien sûr, mais pas celui qui nous révèle Dieu. Hein, mais pas la plus haute, la plus parfaite, la plus totale révélation de Dieu que nous pouvons connaître. C'est pour ça que tout le reste de la révélation, c'est à cette lumière-là qu'on doit la comprendre. Et méditer sur cette parole, celui qui m'a vu a vu le Père, je crois, est assez insondable d'une certaine manière. Et il me semble que négliger d'entrer dans cette perspective, comme les chrétiens l'ont souvent fait dans l'histoire, et pas les moindres théologiens même, hein, même des grands théologiens, c'est aussi quelquefois préférer des idées naturelles, des idées de nos cultures humaines, à la place des idées de la révélation. C'est mettre comme Dieu, au fond, le concept que telle ou telle philosophie grecque, par exemple, hein, ou que telle ou telle conception de la souveraineté politique, l'empereur, etc., nous ont donné plutôt que le concept biblique, c'est plus un concept là, mais la réalité biblique de ce Dieu qui s'abaisse au point de devenir celui qui va laver les pieds de ses disciples. Donc il ne s'agit pas de réduire la révélation de Dieu uniquement à ce point en quelque sorte, mais de comprendre toute la révélation à partir de cette paternité divine que Jésus a essentiellement enseignée. Alors, appeler Dieu Père, considérer Dieu comme Père, et ça je ne saurais trop vous inviter à méditer là-dessus, là c'est insondable de toute manière, donc vous pouvez faire ça encore pendant très 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 longtemps, je pense, mais appeler Dieu Père, ça veut dire se situer soi-même, par grâce, mais quand même, se situer soi-même comme un enfant. Devenir enfant, c'est précisément considérer le Père, Dieu, comme notre Père. Et alors, vous connaissez cette parole. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et c'est vrai que ça me fait toujours penser à une sorte de commentaire de la première béatitude. Heureux ceux qui sont pauvres selon l'esprit, heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, etc. Car le royaume des cieux est à eux. Et en même temps, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et je crois que cet enseignement de Jésus est complètement à mettre en relation avec la présentation qu'il nous fait de Dieu comme Père. Devenir comme des enfants, c'est entrer dans cette relation de confiance et d'amour. Il s'agit d'accepter, de nous en remettre pleinement et en toute chose à notre Père. Quand je vous dis devenir, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein? S'en remettre pleinement et en toute chose à notre Père, voilà, je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas d'un seul d'entre nous complètement. Alors c'est vrai que ça peut sembler entrer en contradiction avec notre volonté très moderne d'être adulte, hein, d'être maître de soi, de dominer son existence, d'être responsable. Je crois que simplement cette attitude d'enfance, elle est liée à la confiance que nous pouvons avoir que le Père nous écoute avec attention et amour. Et que rien de ce qui peut nous arriver ne lui échappe. Il s'intéresse à notre vie avec patience, avec bonté. Il nous connaît et il nous aime tels que nous sommes. Et quand je dis tels que nous sommes, c'est vraiment tels que nous sommes. C'est pas tels que nous sommes quand nous sommes devenus des bons chrétiens, qui hein? Puisque Jésus meurt sur la croix alors que nous sommes pécheurs. Jésus n'attend pas pour mourir sur la croix que nous soyons devenus des gens bien. L'amour de Dieu n'attend pas l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, pas pour l'humanité en bloc comme un concept global, hein? Mais l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous n'attend pas pour se manifester que nous ayons changé. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne souhaite pas que nous changions, et ce qui ne veut pas dire qu'il ne produit pas après un changement. Ça, c'est tout autre chose. Hein. Mais voilà, cet amour, il est premier. Et je crois que c'est important, parce que autant c'est relativement simple de dire ça, autant il y a des moments où ça va de soi, quand on n'a pas de problème particulier, autant il y a des moments où ça cesse d'aller de soi. Et j'ai l'impression que souvent dans notre tête, Dieu est un peu comme un écran. Et on projette là-dessus des tas de trucs. Les meilleurs et les pires. Les choses justes et les choses fausses. Dieu est sans doute aussi, dans l'histoire de l'humanité, le lieu de tous les fantasmes. Et je pense que avancer dans la spiritualité, en tout cas c'est une partie de cette progression, je crois que c'est un peu épurer les fantasmes. Essayer de revenir justement à Dieu tel qu'il est. Il n'y a pas d'autre moyen de savoir qui est Dieu, je crois, pleinement, encore une fois, qu'en Jésus-Christ. Mais alors, justement, ça implique de nous comporter, si nous l'appelons Père, précisément comme des enfants. Et il me semble que c'est précisément, la maturité spirituelle vers laquelle nous marchons, à laquelle nous sommes appelés, hein. Je crois que c'est très exactement rien d'autre que l'esprit d'enfance. Devenir enfant, c'est devenir mûr spirituellement. C'est lorsque nous sommes encore immatures, précisément, et donc plein d'illusions, et donc plein de nous-mêmes aussi, que nous essayons de conserver ou de retrouver complètement les commandes de notre existence. Et que nous nous dérobons, en quelque sorte, à cet esprit d'enfance pour être les seuls patrons, ceux qui pilotent la barque. Et il me semble que c'est peu à peu qu'il nous faut apprendre à lâcher prise, à nous abandonner, à nous confier en lui. Dans la tradition protestante, on va parler très souvent de sanctification. Et il me semble que quelquefois, on pourrait penser que la sanctification, c'est un peu, vous savez, comme quand on est scout, je ne sais pas comment on dit en Suisse, ça doit être la même, ou louveteau, ça, on a des badges. Hein, on gagne comme ça, on passe des épreuves et puis on a des badges. Et alors j'ai l'impression que quelquefois, il y a des gens qui pensent, peut-être qu'ils ne le diraient pas comme ça, ils ne le pensent pas comme ça, mais ils fonctionnent comme ça, ils pensent la sanctification comme l'acquisition successive d'un certain nombre de badges. Et la sanctification, c'est de devenir toujours plus. Hein? Et je crois que c'est très exactement le contraire, la sanctification. La sanctification, c'est larguer au fur et à mesure tout le poids qu'on a en trop. Sans allusion, d'ailleurs, au bon repas que je viens de faire. Mais tous les bagages qui nous plombent. La sanctification, c'est se dépouiller, ou laisser Dieu nous dépouiller, hein? Progressivement de tout ce qui nous empêche d'être transparent en quelque sorte. C'est pas de l'ordre de l'accroissement, c'est de l'ordre du lâcher prise, c'est de l'ordre de l'abandon et c'est de l'ordre de la confiance et de l'abandon parce que la confiance. On en reparlera aussi demain. Alors je crois que là, lorsqu'il y a justement cette confiance, lorsqu'il y a cet abandon, alors je crois que la joie et la paix peuvent venir en quelque sorte s'immiscer dans notre vie. parce que nous laissons la place à l'esprit. Parce que nous nous situons vis-à-vis de notre Père d'une manière juste. C'est-à-dire comme les enfants que par grâce, la grâce d'adoption, il nous donne d'être. Et c'est très exactement comme ça que nous pouvons abandonner, mais ça ne se fait pas comme ça, hein, que nous pouvons abandonner les soucis, les inquiétudes qui nous envahissent si souvent. Vous vous rappelez ce texte dans le Sermon sur la montagne, sur les soucis, sur les inquiétudes, hein, et les arguments de Jésus qui sont, ils font sourire quand même, je trouve. Parce que dans les arguments de Jésus, il y a une rafale d'arguments qui vont du bon sens, bien évident, jusqu'à l'argument le plus profond. Hein? Le premier argument de gros bon sens, c'est lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, a rajouté un millimètre à la durée de sa vie? Sous-entendu, ou plutôt dit autrement, vous vous inquiétez pour un tas de choses, mais en dehors du ulcère à l'estomac que ça va vous déclencher, à quoi ça vous a jamais servi? En quoi est-ce que le fait de s'inquiéter sert? Ça, c'est pas un argument, je dirais, d'une spiritualité totale. Mais c'est quand même un argument de sagesse tout à fait pertinent. Par contre, l'argument de poids, c'est votre Père, on revient au Père, hein, c'est votre Père sait que vous en avez besoin. Et il ne dit pas que c'est faux, parce qu'en plus, vous vous rappelez, c'est pas quelle est la marque de voiture que je vais acheter lorsque je changerai ma Maserati. Hein. C'est des inquiétudes beaucoup plus basiques. Qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, de quoi on va être vêtu. Donc des choses qu'on ne peut plus légitimer. Mais si on peut abandonner en quelque sorte ce souci, c'est précisément parce qu'on rentre dans cette attitude de confiance de l'enfant vis-à-vis de son père, qui sait que le père le sait, et que le père sait que c'est un vrai besoin. Et il me semble que derrière ça, je parlais de joie et de paix, il y a tout un chemin de liberté. Et tout un chemin de libération. À nous de chercher, pour rester dans ce texte, hein, à nous de chercher avant tout son royaume et sa justice, et tout le reste nous sera donné en plus. Le problème, c'est que qu'est-ce que ça veut dire chercher son royaume et sa justice? On chante ça souvent. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est joli, c'est un petit refrain. Il s'engage à rien en plus. Mais c'est vrai que chercher premièrement le royaume de Dieu, on le cherche tous, ce royaume de Dieu. Un peu quand même. Au fond, le dimanche matin, au moins. Mais chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ça veut dire vivre cette relation. Alors, je mélange deux images là, mais c'est vivre cette relation de l'enfant à son père pleinement, complètement, tout au long de l'existence et dans tous les domaines, en quelque sorte, de l'existence. Alors, un peu comme en contrepoint à l'idée de père, c'est pas une opposition, mais voilà, un contrepoint à tout ce qu'on vient de dire, il y a cette notion biblique de la crainte du Seigneur. Vous savez, vous avez une excellente revue de théologie que certains d'entre vous connaissent ou ont connue dans leur jeunesse, qui s'appelle Rokhma et qui est basée sur cette idée, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Vous savez, Proverbe 9, 10. Et ça, c'est important parce que nombreux sont ceux qui connaissent la phrase, hein, mais sûrement beaucoup plus nombreux, en tout cas en France, je ne sais pas si en Suisse ça marche pareil, hein, sont ceux qui connaissent sa version en français fondamentale, hein, c'est la crainte du gendarme qui est le commencement de la sagesse. Et j'ai l'impression que si je dis ça, c'est pas uniquement parce que c'est parce que la crainte du gendarme représente, je crois, très bien l'idée qu'un bon nombre de gens se font de Dieu. Hein? La crainte de Dieu, c'est la crainte, dans cette perspective-là, c'est la crainte de se faire taper sur les doigts. Et il me semble que cette dérive de la crainte de Dieu à la crainte du gendarme montre bien de quelle manière cette parole des proverbes a été entendue. Et je crois qu'il y a toute une prédication chrétienne qui est quand même responsable de ça aussi. Alors vous rappelez, il n'y a pas de peur dans la relation du chrétien à son père. Dans la relation de l'enfant à son père, en prenant la relation de l'enfant à son père selon la révélation, hein, et en prenant le père comme révélé par Jésus-Christ, il n'y a pas de peur parce que dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour véritable chasse toute crainte. Vous avez remarqué que je cite là la première épître de Jean, hein, au chapitre 4 et au verset 18. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa vraie maturité. Donc c'est très dangereux parce que là aussi les mots nous disent quelquefois autre chose que ce qu'ils sont censés vouloir dire. Je crois que la crainte dont il est question dans l'expression « la crainte du Seigneur », en fait c'est quelque chose qui est de l'ordre du respect. Dieu ne peut qu'être pris au sérieux. Si Dieu est Dieu, alors il ne peut qu'être pris au sérieux. Et vous rappelez l'apôtre dans l'épître aux Galates au chapitre 6, au verset 7, qui rappelle qu'on ne se moque pas de Dieu. Et vous savez, j'ai l'impression que dans l'histoire de l'Église, et dans la réalité de nos Églises aussi, au sens très large, hein, de l'Église de Jésus-Christ, on navigue toujours, me semble-t-il, entre soit le Dieu Père, non, justement, soit le Dieu juge tout-puissant, souverain, lointain, écrasant, inquiétant, etc., etc. Et alors on invente tout un tas de médiations de plus en plus élaborées, ou de médiatrices, ou de médiateurs, ou de je ne sais pas quoi, pour essayer d'amadouer le Seigneur. Ça, c'est un côté. Ou alors, côté qui serait assez moderne, c'est un petit Dieu sympa. On fait de Dieu un truc vachement sympa. Un papy, gâteau, un peu débile quand même, mais gentil, hein, qui est révélé par un Jésus-Christ copain-copain. Et je pense que dans les deux cas, on est en dehors de la révélation. Parce que la révélation, c'est précisément le fait que ce Dieu qui se révèle comme un père plein de tendresse et d'amour, c'est en même temps le Dieu créateur de l'univers. C'est en même temps celui qui soutient toute chose par sa parole puissante. C'est en même temps celui qui est souverain sur l'histoire. C'est ce paradoxe qui fait le Dieu de la révélation. Et je dirais, c'est aller du garibancilla de passer du grand sadique cosmique, comme disait Lewis, C.S. Lewis. C'est un Dieu un peu terrible, que l'œil qui regarde. L'œil était dans la tombe et regardait quand même ce truc un peu angoissant. Non, et on passe de ça à. Voilà, ce papy sympa, gentil, qui passe tout, etc. Voilà, je crois que les deux cas, c'est très dangereux. Et il y a une formule que j'aime beaucoup, alors je vais vous la lire, d'un auteur qui n'est pas un auteur protestant classique, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, il n'est pas classique, en plus, il n'est pas protestant. Mais il n'est pas classique. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est Arnaud Desjardins. Alors Arnaud Desjardins a écrit plein de trucs sur plein de choses, voilà. Mais il a écrit un livre qui s'appelle « En relisant les évangiles ». Et voilà ce qu'il dit sur le Père. Il a un chapitre entier, donc je prends un tout petit bout, sur Dieu en tant que Père, et je trouve que ce qu'il dit est tout à fait juste. Il dit « Une certaine crainte de Dieu est certes justifiée. Sous prétexte qu'il est tout amour, il ne s'agit quand même pas de se moquer de lui. Il ne faudrait pas que nous croyions que tout est permis. » La crainte dont je parle, et il précise bien, j'emploie ce mot parce qu'il faut en employer, est un sentiment qui ne relève pas de la peur, mais plutôt de la gravité. Je trouve cette formule très juste. Si j'avais un père humain, qui soit vraiment un père, est-ce que je considérais que je peux tout me permettre en face de lui parce qu'il m'aime ? Vient un moment où même le père qui a le plus d'amour va dire non. On ne peut pas prendre le nom de Dieu en vain, on ne peut pas tricher, on ne peut pas traiter Dieu à la légère ni le duper. Une décence, une dignité nous sont demandées, nous sentons que nous ne pouvons pas nous comporter n'importe comment, que nous avons un rôle à jouer et que quelque chose nous incombe en face de Dieu, mais cette crainte légitime n'a rien à voir avec la peur. Mais je trouve qu'on ne saurait mieux dire. Et que cette dimension-là, elle me paraît quelque chose d'extrêmement important. Et que les deux vont de pair. Cette confiance, cette intimité d'amour avec celui qui se révèle comme notre Père en Jésus-Christ, et en même temps, ce respect vis-à-vis de ce même Dieu qui est aussi le Dieu Tout-Puissant. Alors en résumé, j'ai envie de dire, je crois que toute la spiritualité d'une personne va dépendre de l'idée qu'elle se fait de Dieu. La vraie idée, pas juste de là, de ce qu'elle va être capable de mettre sur le papier quand on va lui demander de l'objectiver en quelque sorte, mais de l'idée qu'elle se fait de Dieu dans son cœur. Je dis bien dans son cœur, pas au sens biblique du terme, hein, au sens de la profondeur de la personne. Et dans le cœur, il y a plein de choses. Vous savez, il y a des pères de l'Église qui disaient le cœur. Non, oui, les pères de l'Église ont répété, mais je crois que c'est dans la Bible. Le cœur de l'homme est un abîme. C'est la formule biblique. Je ne sais pas. En tout cas, c'est les pères de l'Église qui disent ça, je suis sûr, et l'idée est aussi dans l'Écriture. Mais je crois que cette dimension de l'abîme du cœur, avant même de parler de Freud, hein, donc bien plus longtemps, je crois que c'est très profondément vrai. Et il y a une sorte de purification du cœur, et donc une purification de l'idée que nous nous faisons de Dieu. Alors, j'ai fait là qu'est-ce qui sait, hein, cette question, mais je crois qu'on peut la compléter, je dirais, on pourrait intellectuellement la compléter, mais j'ai envie de dire, la vraie manière de compléter cette question, c'est plutôt par la méditation personnelle. Méditation personnelle du Père, méditation personnelle du Christ, comme nous représentant, nous présentant le Père. Alors ça, c'est ce que je voulais dire d'essentiel. J'ai envie de rajouter trois mots. Comme ça, on aura même peut-être le temps d'échanger éventuellement. Les trois mots, c'est que vous allez voir dans les personnages, il n'y a pas que des personnages, mais les traditions ou les personnages que nous allons aborder, vous allez voir des gens qui sont infiniment sympathiques. En général, sinon, enfin, en général. Ceux que je vous présente, en tout cas. Mais vous allez voir aussi des gens qui ont une théologie qui n'est pas forcément celle qui vous est naturelle. Parce que quand on est au XIIe siècle, quand on est au tout premier siècle, quand on est au XVIe siècle, même, voilà, on véhicule avec soi un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément. Et ce que je crois, c'est que dans l'approche théologique, dans l'approche spirituelle qui peut être la nôtre, hein, et théologique aussi, je crois qu'il peut y avoir, il ne s'agit surtout pas, me semble-t-il, théologiquement de dire, voilà, tel, alors quelquefois on s'en rend compte avec certains étudiants, mais les étudiants c'est normal, ils sont payés pour ça, et j'espère que ça leur, enfin ils ne sont pas payés pour ça, ils payent, mais je veux dire, ils se forment pour ça, et on peut espérer que ça va leur passer assez rapidement. Hein. Mais la tentation c'est de dire, voilà, telle personne, sur tel point, il dit un truc qui est faux. Mais il n'est pas protestant. Enfin, ou il n'est pas évangélique, etc. Et donc tout le reste tombe. Il ne faut surtout pas penser une chose pareille, je crois. Il faut plutôt dire, bien sûr, dans la théologie de telle personne, qui est. Voilà. Ce n'est pas un scoop, par exemple, que Thérèse d'Avila est plutôt catholique. Mais il y en a plein d'autres, là, François d'Assise dont on va parler, ben, aussi. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir tout ce qu'il y a de magnifique, je dirais, tout ce qu'il y a de, j'allais dire génial, mais c'est pas le mot, c'est plein de l'esprit, là, hein, dans telle ou telle vie, dans tel ou tel théologien. Non, pas théologien, dans tel ou tel grand spirituel, dans tel ou tel saint du passé, etc. Mais, ce qui me paraît important, c'est que lorsque vous allez vous approprier certains éléments, il me semble intéressant que votre spiritualité soit en cohérence avec votre théologie. Avec votre théologie, c'est un bien grand mot pour dire, voilà, ce que vous croyez, votre foi. Là. Et je crois que lorsqu'on est protestant, il y a un point qui me paraît un point clé. Et qu'on va trouver quelquefois en filigrane chez tel ou tel grand personnage, mais jamais dit comme ça, parce que avant la réforme, voilà, c'est pas quelque chose qui est naturel. Le point fondamental, c'est que pour nous, je dis nous protestants au sens très large depuis la réforme, c'est que le point de départ pour nous, c'est la grâce. Dans les théologies qu'on va voir, les théologies sous-jacentes aux spiritualités qu'on va voir, très souvent, il y a tout un cheminement de la spiritualité qui est un cheminement en vue du salut. Hein? Parce que quand vous êtes un catholique du Moyen-Âge, vous n'avez pas d'autre chemin. Toutes les catégories sont dans ce sens-là. Voilà, toute la théologie est dit comme ça. Et j'ai l'impression qu'il faut avoir conscience, il me semble pour nous, parce que là aussi les protestants souvent vont d'un extrême à l'autre, qu'il y a une succession de choses dont nous risquons d'évacuer l'une ou l'autre. Nous croyons, me semble-t-il, avec Luther et depuis Luther, et je dirais avec la Bible et depuis la Bible, avec Paul et depuis Paul, mais Luther au niveau de l'histoire de l'Église comme une redécouverte, à la justification par grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire que nous ne croyons pas que Dieu va devenir notre Père, que Dieu va se mettre à nous aimer, ou que Dieu même, je dirais, nous sauvera, seulement si nous arrivons à le mériter à la fin d'un long parcours, etc. Nous savons que nous sommes sauvés par la foi. Nous savons que nous sommes sauvés par pure grâce à cause de Jésus-Christ dans cette relation à Jésus-Christ. Et j'ai l'impression que quelquefois, certains protestants, sûrement pas en Suisse, mais dans d'autres pays francophones, s'arrêtent là. Hein? Voilà, nous sommes sauvés par grâce, venez pas nous casser les pieds avec le reste. Et il me semble que être sauvé par grâce, ça c'est le point de départ. Mais être sauvé, ça veut dire recevoir ce cadeau fou de la part du Père, de pouvoir entrer dans une vie nouvelle de relation avec Dieu. Et non seulement de relation avec Dieu comme on a une relation avec un autre, mais de relation avec Dieu comme celui qui vient en nous. Et non seulement celui qui vient en nous par le Saint-Esprit, mais celui qui va nous transformer petit à petit à son image. Toute la définition que je viens de donner, au fond, c'est très exactement ce que les protestants ont appelé la sanctification. Et entre nous, ça serait ce que les orthodoxes appelleraient la déification. Il ne faut surtout pas dire ça à des protestants, je ne vous dis pas. Mais l'idée quand même, c'est la même. Sous le terme un peu exotique pour nous, soit scandaleux, soit exotique, au fond, c'est quand même la même définition. Mais c'est cette idée d'une transformation. Et le chemin de la spiritualité, au fond, s'intéresser au chemin de la spiritualité, c'est accepter de rentrer dans ce projet de Dieu pour nous, qui est celui de cette transformation progressive, j'ai envie de dire à son image, à l'image du Christ, mais qui est la perfection de l'image de Dieu. Et donc cette dimension-là, c'est pas une dimension de mérite, c'est pas du tout une dimension en vue de mériter d'une quelconque manière le salut, c'est simplement laisser le salut fleurir aux portées du fruit en nous. C'est laisser le salut se manifester comme un véritable salut, pas juste pour dire, ben voilà, soit vous êtes déculpabilisé, soit vous êtes pardonné pour l'éternité et vous serez sauvé à la fin du parcours, mais c'est dès maintenant il y a cette transformation. Et je dirais que si on a cette perspective-là, qui me paraît celle de Luther, sous des formes alors légèrement différentes, hein, mais de Luther, de Calvin, de Wesley, des anabaptistes, en fait, du protestantisme, je dirais, dans son ensemble, du réveil tout autant, mais je dirais que dans cette perspective-là, alors tous les auteurs, ou tous les spirituels que nous allons envisager, ils ont énormément à nous apporter. Parce que précisément, si nous nous intéressons à eux, et si les chrétiens s'intéressent à eux depuis 2000 ans, c'est précisément parce qu'ils ont laissé, chacun à sa manière, très différent les uns des autres, hein, mais ils ont laissé le Saint-Esprit travailler en eux et porter du fruit. Et parce qu'ils ont fait ça, je dirais, ils sont pour nous un modèle, ils sont pour nous un type, en quelque sorte, possible de sainteté. Voilà, je vais m'arrêter là. Ce qui nous laisse encore quelques minutes, éventuellement, si vous n'êtes pas complètement épuisé, pour échanger si vous souhaitez. Et vous ne sentez pas obligé, si vous avez envie de rentrer chez vous, soit pour passer des heures en méditation profonde, soit pour plonger dans votre lit et vous endormir.
Je peux vous passer le micro.
Ben, moi j'ai une question concernant la notion du père ou la personne du père. Je trouve en lisant le testament.
J'étais touché le bouton, j'ai
voilà.
Parfait.
Ben, quand on dit.
Oui.
Voilà, merci. Quand je lis les évangiles, ça commence gentiment à descendre dans mon cœur, cette notion du Père ou la personne du Père. Mais quand j'entends des textes, comme aujourd'hui, lors de l'office avec les sœurs, il y avait un texte dans l'Apocalypse qui disait « Les morts vont revenir devant Jésus et puis il va devant Dieu et puis il va les juger selon leurs œuvres. » Et ça, c'est quelque chose, bon, déjà, toute l'histoire avec l'Apocalypse et comment ça va vraiment être. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui réagit avec de l'angoisse vis-à-vis de choses qui ne sont pas certaines. Alors, je trouve déjà un peu bizarre tout ça. Et puis, encore, en entendant ça, je dois dire, c'est difficile après de se dire, je fais pleinement confiance, c'est que c'est justement pas le père fêtard. Alors, comment vous pouvez situer cela? Ça m'intéresserait.
Une première grande tentation, c'est de renvoyer la balle à la professeure du Nouveau Testament. Mais ce serait suffisamment lâche pour que je commence
c'est
par
ça,
essayer.
C'est lâche.
Je commence par essayer. Et puis après, voilà. Moi, je crois que, voilà. Dans la Bible, non, dans le Nouveau Testament même, il y a d'abord beaucoup de choses. Et le livre de l'Apocalypse est un livre dont on sait en tout cas, après il y a d'autres éléments, mais dont on sait en tout cas qu'il est symbolique. Il essaie de nous transmettre une vision en quelque sorte de choses qui par définition ne sont pas descriptibles d'une manière simple, parce que ce sont des choses qui ne sont pas dans notre histoire pour la plupart, sur cette terre en plus. Donc de toute manière, il y a une symbolique et il reprend complètement la symbolique de l'Ancien Testament aussi. Donc je veux dire, c'est des choses qui sont des choses très vastes. Mais en même temps, il me semble que... Alors voilà, ça c'est le premier argument, c'est il y a ça et de l'autre côté il y a Jésus-Christ. Et pour moi, entre les deux, je dirais, il y a d'un côté celui qui est la révélation parfaite du Père, et après des textes symboliques que je dois interpréter à la lumière de cette révélation et pas l'inverse. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand il est question de l'amour de Dieu, d'une certaine manière, dans l'Écriture, dans son ensemble, mais y compris dans le Nouveau Testament, l'amour de Dieu n'est pas dissocié ni dissociable d'une certaine manière de la justice. Mais imaginez un père, précisément, chez qui l'amour serait complètement déconnecté de tout élément de justice. Ce serait un rôle de père, quand même. Et ce serait même un père qui, je dirais, au niveau de la pédagogie, au niveau de l'enseignement qu'il transmet, au niveau de la relation qu'il a, serait un, qui créerait l'insécurité, qui serait angoissant, justement, comme père. Voilà. Et deux, qui aboutirait, je crois, à déclencher chez l'enfant, effectivement, des choses assez bizarres. Alors, j'ai l'impression que dans le Nouveau Testament, c'est un peu difficile, quelquefois, pour nous protestants, de recevoir ça, parce qu'on est tellement habitué au salut par grâce au moyen de la foi. Mais dans le Nouveau Testament, l'idée que Dieu jugera chacun selon ses œuvres, donc ça c'est la permanence, me semble-t-il, qu'on trouve aussi bien dans l'Ancien Testament, mais qu'on trouve chez Paul aussi, qui le dit tout simplement. Et pourtant le Paul de l'Épître aux Romains qui dit en même temps, vous êtes tous pécheurs, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et bien, il dit aussi que le fond, c'est le fond de la justice de Dieu. Et j'ai l'impression que ce Dieu, au fond, le Père dont il est question, il est en même temps plein de tendresse, de bonté et d'amour, et en même temps, il est juste. Et d'une certaine manière, si on admet cette justice, mais là je ne vais pas me lancer dans des points de théologie qui pourraient devenir des points glissants, puisque nous sommes des gens très divers, mais s'il est juste, je ne crois pas qu'on puisse considérer comme étant complètement juste le fait de laisser le mal, à la fin du parcours, se développer joyeusement, sans qu'il y ait d'une certaine manière une sanction, ce que l'Apocalypse nous donne dans son langage aussi symbolique. Quand on parle du jugement final, je crois que c'est aussi ça. Mais, pour moi, le fait que Dieu... Enfin, il y a une toute petite phrase qui me paraît absolument clé. Il se trouve que j'enseigne à la faculté de Vaud à la fois l'éthique et la spiritualité. Et pour moi, c'est une phrase qui est clé dans les deux cas. C'est quand, dans la première épître de Jean, il nous est dit à deux reprises que Dieu est amour. Ça veut dire que l'amour, c'est l'être même de Dieu. C'est pas simplement que Dieu est tout un tas de trucs et en plus miséricordieux, gentil, il nous aime. Ça veut dire qu'il est amour. Et ça me paraît la clé. Alors que ce Dieu qui est amour soit aussi le Dieu juste, ça je crois que c'est la révélation biblique dans sa totalité, et que ce Dieu juste, un peu comme disait le texte d'Arnaud Desjardins que je disais, ne laisse pas faire non plus n'importe quoi, je crois que c'est vrai aussi. Mais pour moi, il n'y a pas opposition du tout entre les deux thèmes. Je ne sais pas si tu voyais.
Ça répond à votre question ?
Oui.
Oui. D'autres interrogations, d'autres remarques à faire ?
Pour repartir sur votre réflexion, vous avez parlé du lâcher prise, la responsabilité, ce qu'on peut dire dans notre état d'adulte qui est en opposition avec la confiance de l'enfant. Et là, j'aimerais avoir un petit peu plus d'éclairage parce qu'il me semble que la confiance peut aussi aller avec la responsabilité.
Oui. Amen. Oui, non, je ne voulais surtout pas dire soyez fou et irresponsable. Non, je crois aussi. Ce que je voulais dire, c'est que il me semble que dans notre société, l'air du temps, je dirais l'ambiance, va dans le sens de devenir toujours plus maître des choses, maître des événements, maître de soi, etc. Va dans le sens de assurer toujours plus la sécurité, la certitude que si je me comporte normalement, rien ne doit se passer de mal. La preuve, c'est que s'il m'arrive quelque chose, je vais appeler vite mon avocat pour savoir qui je vais attaquer. Parce que je veux avoir quand même des compensations, puisque normalement, il ne doit pas m'arriver. Bon. Ça, c'est l'air du temps. Et il me semble que, et donc d'une certaine manière, on est engoncé dans des murailles protectrices. Et il me semble que le lâcher prise, là, et la confiance, c'est d'une certaine manière une liberté qui accepte de ne pas s'angoisser et qui accepte le risque aussi. Hein, qui accepte, c'est pas pour rien que dans les béatitudes, il est dit aussi heureux ceux qui sont persécutés. Ça veut dire heureux ceux qui acceptent de risquer, de risquer la persécution, hein, qui ont le courage de ne pas se protéger, ou bien heureux ceux qui pleurent, c'est un peu la même chose. Donc d'une certaine manière, heureux ceux qui s'exposent, parce qu'ils sont assez libres Il faut assez confiance en quelque sorte pour ça. C'est dans ce sens-là que je veux dire que ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Mais en même temps, alors, je crois que nous sommes appelés à la responsabilité devant Dieu, tout à fait, et pas que devant Dieu. Et si vous êtes, et si l'on est, on a un métier quelconque, et si l'on est marié, si l'on a des enfants, il ne nous est pas demandé d'être irresponsable. Ça, c'est clair. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est que le paradoxe par rapport à la culture qui est celle de notre temps, c'est que la croissance dans la vie spirituelle, elle passe par l'abandon à l'Esprit de Dieu. Au fond, je crois que nous ne pouvons presque rien faire pour notre sanctification. Nous pouvons laisser Dieu faire. Par contre, nous avons une énorme capacité à freiner. Voilà, je ne suis pas sûr que l'accélérateur en ait beaucoup de trucs, mais par contre, le frein, ça je sais que ça marche, comment il marche, très bien. Hein, parce que je crois qu'au fond, la sanctification, c'est le travail de l'esprit en nous, et c'est laisser l'esprit non seulement venir en nous, mais travailler en nous, donc nous transformer. Or, il me semble que ce laisser-faire-là, même si on va le dire, on va le redire, et moi je vous le dis avec beaucoup de facilité, c'est très facile à dire devant vous, c'est beaucoup plus difficile à faire dans la réalité, hein. Parce que ce laisser-faire-là, quelque part, il nous angoisse.